Bonjour, mon nom est Geneviève Guitté, je suis coach de performance et fondatrice de Dassio. Bienvenue à l'épisode 14 de Bold Leadership. Alors, j'accompagne des leaders et des gestionnaires tous les jours et les défis auxquels ils font face sont nombreux. C'est certain que les deux dernières années ont été très spéciales, c'est le moins qu'on puisse dire, et en plus de devoir s'ajuster à la réalité du travail à distance et de tous les défis que ça implique, un nouveau niveau de difficulté s'ajoute avec le phénomène de la grande démission. Alors, il est extrêmement difficile de trouver du talent, puis il devient aussi très difficile de retenir les talents au sein de nos équipes et de nos organisations. Alors, ça cause d'énormes maux de tête aux gestionnaires, puis ça a aussi un impact négatif, bien sûr, sur les résultats de la performance des organisations. Pour cette raison-là, j'ai décidé de consacrer deux épisodes à la grande démission, deux épisodes consacrés à la gestion du talent dans ce contexte particulier. Mon objectif n'est pas d'en ajouter dans la cour des gestionnaires, mais de favoriser une réflexion sur nos croyances puis de challenger les paradigmes avec lesquels on opère depuis longtemps. Parce que pour se transformer, il va falloir revoir notre recette et nos principes. Alors le premier épisode, celui d'aujourd'hui, est consacré à l'immense influence qu'on a comme gestionnaire dans la rétention du talent puis de l'impact qu'on peut avoir avec une approche un peu plus proactive face au développement de nos employés. Le deuxième épisode sera consacré à la gestion de la performance dans le contexte de la grande démission. Il y a de nouveaux défis que les gestionnaires rencontrent ces jours-ci. Les candidats qu'on trouve sont souvent beaucoup moins expérimentés que ceux qui nous quittent et on doit parfois promouvoir des employés qui ne sont pas encore tout à fait prêts pour leurs nouvelles responsabilités. Deux gros sujets d'actualité qui, j'espère, vont vous aider dans votre réalité quotidienne de leader et de gestionnaire. Le phénomène de l'attraction puis de la rétention du talent, c'est pas nouveau, évidemment. Il y a une quinzaine d'années, on parlait de la grande séduction. Tout était mis en place pour séduire les candidats d'ici, mais aussi de l'étranger. Je me rappelle qu'on commençait à cette époque-là à avoir des gens au sein même des équipes RH qui coordonnaient le processus d'immigration des nouveaux employés. Puis c'est à cette période-là aussi où on s'est mis à raffiner nos processus de onboarding puis de mettre de l'énergie sur la fameuse marque employeur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les démissions ont augmenté de 20 % en 2020-2021 par rapport à 2019. Et la majorité des démissions touchent les milléniaux, c'est-à-dire les moins de 35 ans. Alors, le marché actuel du travail est un marché d'employés et ils le savent, bien évidemment. Ce qui se passe, c'est que quand mon boulot ne me satisfait pas complètement, ben je tente ma chance, je vais voir ailleurs parce qu'il y a plein d'opportunités au bout de mes doigts. Ça peut être pour un meilleur salaire, pour des meilleurs bénéfices, parce que je veux travailler à 100 % de la maison, etc. Mais très souvent, c'est pour être plus heureux professionnellement, pour avoir plus de responsabilités ou faire plus de ce que j'aime faire. Alors, je me souviens au début des années 2000, avec la bulle du dot-com, comment attirer du talent était difficile. Donc, dès la fin des années 90, on s'inspirait des pratiques de la Silicon Valley pour innover dans nos pratiques relatives à l'attraction puis la rétention du talent puis la gestion des ressources humaines. C'est à cette période-là que je suis tombée sur deux auteurs qui ont énormément influencé mon approche au niveau du développement. Alors, il s'agit de Beverly Kay et Sharon Jordan Evans. Alors, en 1999, la première édition de leur livre « Love Them or Lose Them, Getting Good People to Stay » était publiée, puis dans les 20 années qui ont suivi, plusieurs autres livres ont été publiés sur le même genre de thème, « Up is not the only way »,« Hello, stay interviews » ou « Help them grow or watch them go ». Donc, dans certaines de mes formations sur la gestion de la performance et la discussion de carrière ou la discussion de développement, on va parler de quelle expression est la meilleure pour vous, j'offre presque toujours un des livres de Beverly Kay et de Sharon Jordan Evans à mes gestionnaires participants. L'essence de tous ces ouvrages-là peuvent se résumer en trois points. Le premier point, c'est être proactif comme gestionnaire et ne pas attendre que quelqu'un démissionne avant de faire quelque chose. Ne pas attendre la exit interview avec les ressources humaines. Le deuxième point, c'est dédier du temps de qualité avec nos employés pour discuter de leur développement et de leurs besoins motivationnels. Puis le point 3, c'est responsabiliser nos employés face au développement de leur carrière et de leur bonheur au travail. Alors, les gestionnaires sont débordés. Ils vont souvent choisir de mettre de côté ou de repousser à demain leur responsabilité par rapport à un aspect crucial de leur rôle, le développement de leurs gens. parce que c'est beaucoup moins tangible qu'un livrable ou qu'une échéance, etc., puis qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent et important. Mais dans le contexte actuel, on n'a plus vraiment le choix, c'est devenu urgent et important. Si on s'en occupe pas, la roue infernale ou le cercle vicieux ne va que s'accélérer. Parce que plus on est débordé, moins on a le temps de s'occuper des discussions de développement, plus on perd du talent, puis plus on est débordé parce que on n'a pas assez de monde dans nos équipes. Alors, c'est pas facile de s'en sortir. Alors, même si certains gestionnaires continuent de penser que c'est un good to have, la réalité est en train de nous rattraper, puis ça peut prendre plusieurs mois aujourd'hui pour remplacer une personne qu'on a perdue, puis il y a des grandes chances que la personne qu'on va embaucher soit pas mal moins expérimentée que celle qu'on a perdue. Donc, il faut y penser deux fois aux efforts qu'on n'investit pas pour garder nos gens. Alors, comme les deux, on contrôle pas tout ce qui se passe dans nos organisations, c'est évident. Mais on contrôle notre approche dans la gestion de nos personnes, de nos équipes. Oui, c'est plus facile de gérer dans une organisation où tout se passe bien, que la culture est bien alignée avec les valeurs, que les résultats financiers sont au rendez-vous, que la communication est fluide et transparente, que le INPS est à 80, c'est certain. Mais vous seriez surpris de voir comment ce genre d'organisation-là est rare. Puis quand ça se produit, ce n'est pas pour toujours. Il y a des cycles économiques, il y a des cycles de produits ou des cas d'acquisition, toutes sortes de choses qui viennent et peuvent perturber le délicat pH d'une entreprise. Alors, dans le contexte d'aujourd'hui qui se transforme à la vitesse grand V, on doit mettre de l'énergie sur ce que l'on contrôle et qui a le plus d'impact. Alors, aujourd'hui, comme gestionnaire, votre impact sur la rétention des talents passe par le fait d'être plus proactif que jamais face à leur développement. L'un des gros pièges dans lesquels on peut tomber dans cette période de grande démission, c'est le piège de la facilité. Alors, de tenter de résoudre nos problèmes de rétention en utilisant seulement des leviers basés sur la motivation extrinsèque. Alors, ce que je veux dire ici, c'est de tenter de régler nos problèmes de rétention en ajoutant des perks, des bonus de rétention, en augmentant les salaires, etc. Alors, on sait, pour allumer un bon feu de foyer qui va brûler quelques heures, on a besoin de petits bois, de papier journal, puis de bonnes bûches. Puis on doit ajouter des bûches régulièrement pour garder la puissance du feu. Quand on utilise seulement des leviers reliés à la motivation extrinsèque, c'est comme si on partait notre feu ou qu'on l'alimentait avec seulement du petit bois puis du papier journal. Ça fait des grosses flammes, mais qui durent quelques secondes, quelques minutes seulement. Les éléments de motivation extrinsèque sont essentiels parce qu'on pourrait pas, sans papier journal puis sans petit bois, on pourrait pas partir un feu. Mais on doit incorporer aussi des leviers de motivation intrinsèques. On doit mettre des bonnes grosses bûches dans le foyer. Alors, c'est quoi la motivation intrinsèque? Alors, ce sont des éléments de motivation qui sont reliés au sentiment d'accomplissement. Le fait de trouver du plaisir dans le travail que je fais, d'avoir le sentiment que j'apprends des choses, que ce que je fais a du sens, que je contribue à quelque chose de plus grand. Le fait de mettre mes forces à profit dans mes responsabilités de tous les jours sont tous des éléments de motivation intrinsèque. Alors, pour pas tomber dans le piège de la facilité, faut d'abord comprendre nos enjeux particuliers puis trouver les anomalies pour trouver des solutions efficaces. Alors, j'écoutais un épisode du podcast de Planète Money, l'épisode 1476 sur le burnout, puis une de leurs invitées était la gestionnaire du centre d'appel de Spot Hero, une compagnie qui développe une application de stationnement. Puis elle partageait les challenges reliés au haut taux de roulement de son équipe dans le contexte difficile de ce type de poste-là au service clientèle. Chaque agent du service clientèle devait répondre environ 90-100 appels par jour, puis certains des appels-là étaient avec des clients particulièrement frustrés puis en colère. Donc, beaucoup de détresse et de stress chez les agents qui tombaient comme des mouches. Alors, les centres d'appel sont essentiels au fonctionnement des entreprises, puis dans le contexte de la grande démission, il peut devenir extrêmement difficile de remplacer les agents qui quittent, puis ça peut devenir un gros problème rapidement. Alors, ce que Spot Hero a fait, c'est d'analyser leur modèle ou leur paradigme pour trouver l'anomalie. Pourquoi les gens partent plus que d'habitude? Alors, Spot Hero aurait pu y aller avec des leviers reliés à la motivation extrinsèque, puis d'ajouter des primes de rétention, augmenter les salaires, etc. Mais ils ont préféré explorer un autre chemin. Puis c'est là que c'est intéressant, puis c'est pour ça que je le partage avec vous, basé sur des leviers de motivation intrinsèque. Alors, ils ont d'abord identifié l'anomalie dans leur modèle ou dans leur paradigme, c'est-à-dire une détresse accrue chez les agents qui mène à un haut taux de roulement. Dans cette situation-là, ajouter plus d'argent ne réglait pas vraiment leur problème, ou si ça le réglait partiellement ou vraiment dans le court terme. Alors, ce que Spot Hero a fait, c'est qu'ils ont joué sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le mindset de leurs agents. Alors, ils ont transformé la perception que les agents ont de leur rôle. Alors, les agents se perçoivent maintenant comme des super-héros qui travaillent chez Spot Hero plutôt que comme des gens qui se font crier après par des clients 7 heures par jour. Ils sont maintenant à la rescousse des clients en détresse. Cette transformation-là du mindset passe aussi par le fait que chaque agent a sa cape super-héros. C'est quelque chose vraiment qu'ils vivent d'une manière tangible sur le plancher. Alors, ils ont aussi fourni à leurs agents des moyens pour mieux gérer leurs émotions après un appel difficile, avec une salle zen pour méditer puis décompresser. Juste le fait de reconnaître le côté difficile de leur travail aide à maintenir un bon état d'esprit chez les agents. Et oui, ils ont baissé aussi le nombre d'appels par jour pour les agents du service clientèle de 90 à 60. Les agents ont moins de pression. Ils sentent qu'ils aident mieux leurs clients et ils sont plus satisfaits au travail. C'est une baisse importante, 30 %, c'est certain, mais ils ont perdu aucun agent permanent dans la dernière année. À un moment donné, il faut mettre nos modèles de côté pour analyser le data. Puis c'est ça qui est cool avec les centres d'appel, parce que tout se mesure. Si on reste pris dans nos croyances puis nos paradigmes, on va juste continuer de ramer jusqu'à s'épuiser sans remarquer qu'on est échoué sur un banc de sable puis qu'on rame pour rien. Ce que Spot Hero a fait s'applique peut-être pas partout puis dans toutes les entreprises, puis j'entends des petites voix s'élever, si on doit baisser nos ratios de 30%, on est aussi bien de fermer. Puis c'est là qu'il faut prendre une pause puis jeter un coup d'œil à nos modèles puis identifier nos anomalies à nous dans notre contexte puis notre réalité. Parce que quand on trouve les anomalies, on peut commencer à trouver des vraies solutions. Et non, toutes les solutions ne sont pas nécessairement liées à des leviers de motivation extrinsèques. Le développement de nos employés est la fameuse discussion de carrière. En fait, c'est plus simple que ça en a l'air, puis peut-être que discussion de développement est mieux adaptée. Le mot carrière peut être perçu, peut-être pour certains gestionnaires, comme un frein qui peut les faire hésiter à avoir ce type de conversation-là pour pas créer de fausses attentes chez les employés. Tandis que discussion de développement, c'est plus dans le maintenant. On réfléchit à demain, mais on agit aujourd'hui. Alors, si je suis coach d'une équipe de hockey, mon rôle est que chacun de mes joueurs donne son maximum en termes de performance. Chacun de mes joueurs est différent en termes de besoins motivationnels, différent dans la manière dont ils reçoivent le feedback, puis comment ils font face à l'adversité. Comme coach, je dois donc m'adapter aux besoins de chacun pour maximiser leur performance et leur potentiel. Mon objectif est d'avoir des joueurs puis des joueuses qui sont heureux de jouer au hockey puis qui ont le goût de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mon rôle, c'est aussi d'aider mes joueurs à mieux se connaître, à reconnaître où ils sont leurs pires ennemis ou quand ils peuvent parfois saboter leur propre succès, ou bien de souligner les comportements qu'ils ont dans le vestiaire qui nuisent à la cohésion ou à la performance de l'équipe. Mon rôle comme coach, c'est d'avoir toutes ces conversations-là avec mes joueurs sur une base régulière. Mais très souvent, les gestionnaires ont la perception qu'ils ont ces conversations-là avec leurs employés. Mais quand on demande aux employés à quand remonte la dernière conversation de développement qu'ils ont eue, la réponse est généralement « jamais ». C'est là que le problème commence. Si je suis persuadée comme gestionnaire que j'investis du temps pour ces discussions-là, puis que mon employé a la perception du contraire, ben on peut pas être surpris quand dans l'entrevue de départ, un employé mentionne dans les raisons de départ un manque d'opportunités de développement et de feedback de la part de son gestionnaire. Puis c'est tellement souvent le cas. Donc, il y a trois erreurs à ne pas faire comme gestionnaire. par rapport aux rencontres et aux discussions de développement. L'erreur numéro un, c'est de minimiser son impact comme gestionnaire dans le développement des gens de mon équipe ou de rester fermé dans le carcan de mes croyances. Alors, j'entends parfois des gestionnaires me dire, écoute Geneviève, les gens sont des adultes, ils sont rémunérés, ils ont un travail à faire, je vais pas les tenir par la main. On parle pas de tenir par la main ici, parce que on veut responsabiliser les gens face à leur développement, mais on parle de faire notre travail de coach puis de s'assurer que tous nos joueurs sont heureux de jouer au hockey, qu'ils ont le goût de donner le meilleur d'eux-mêmes. L'erreur numéro 2, c'est de confondre les rencontres hebdomadaires qu'on a avec nos employés puis qui sont dédiées à la gestion opérationnelle des projets avec des rencontres formelles de développement qui sont dédiées à des discussions ouvertes sur le développement de l'employé. Mais le fait de mêler les deux, c'est pas une bonne idée. Avoir une rencontre formelle de développement mensuelle à tous les 3 mois, à tous les 2 semaines, peu importe, mais mieux vaut des plus courtes rencontres plus souvent que le contraire. Ça va aider à clarifier l'objectif de la rencontre, de s'assurer de se préparer adéquatement, puis d'être dans un bon état d'esprit. Ce que je veux dire par être dans un bon état d'esprit, comme gestionnaire, c'est de pouvoir mettre de côté mes préoccupations de gestionnaire, les 6 postes que je dois combler, les retards de production, etc., pour être présent à 100%. Si vous avez des rencontres formelles, il n'y aura pas de confusion quand on va demander à l'employé « Quand as-tu eu ta dernière discussion de développement? » On ne mélangera pas des sujets, puis on ne manquera pas de temps pour discuter des sujets qui sont importants pour notre employé. L'erreur numéro 3, c'est de prendre en charge ou de porter sur mes épaules comme gestionnaire le développement des gens de mon équipe. Le gestionnaire est là pour soutenir et maximiser le développement de la performance. L'employé doit être responsable de son développement professionnel. Alors, si je prends l'exemple du coach privé au gym qui nous aide à atteindre nos objectifs, qui nous pousse, qui nous encourage, mais qui jamais va courir à notre place sur le treadmill, bien entendu. Alors, une rencontre de développement, comment on fait ça puis par où je commence? Alors, la première chose est de laisser son agenda et l'agenda de l'organisation de côté pendant cette rencontre-là. Pourquoi? Pour être efficace et puissante, la rencontre de développement doit être centrée sur un seul agenda, celui de notre employé. C'est essentiel pour se mettre en posture d'écoute et de curiosité. Alors, il y a 6 choses que vous allez aborder pendant une rencontre de développement. La première chose, c'est de comprendre les besoins motivationnels de la personne qui est devant nous. Alors, qu'est-ce qui motive intrinsèquement cette personne? C'est quoi la bûche qu'on doit mettre dans le feu pour que ça brûle? Qu'est-ce qui rend cette personne-là heureuse professionnellement? Alors, il y a 4 questions qu'on peut poser qui vont nous aider à découvrir les besoins motivationnels de quelqu'un. Alors, je peux lui demander, de quoi as-tu besoin pour te sentir motivé? Qu'est-ce qui te manque pour maximiser ton engagement? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton travail pour maximiser ta performance? Puis la 4e question, quel type de feedback as-tu besoin et à quelle fréquence? Alors, ces 4 questions-là, je vais les mettre d'ailleurs dans les notes de l'épisode pour vous aider à ouvrir la porte des besoins motivationnels. Le 2e sujet de discussion, ou en fait sur lequel vous devez porter votre attention, c'est favoriser l'introspection et la connaissance de soi de la personne que vous rencontrez. Alors, aider cette personne-là à découvrir ses forces et son super pouvoir. Alors, le super pouvoir, c'est quelque chose qu'on est super bon à faire, qui nous vient naturellement, puis qui a un impact important. Notre super pouvoir, c'est souvent quelque chose qui est tellement facile pour nous, puis tellement difficile pour les autres. Ça nous aide à identifier notre super pouvoir. C'est aussi aider à découvrir son ou ses zones aveugles, ses blind spots. L'aider aussi à découvrir ce qui se passe quand cette personne-là pousse trop loin ses forces, quand ça devient négatif ou que l'impact est plus atteint. On appelle ça le dark side. Donc, l'aider à articuler qui je suis en incluant toutes ces facettes-là. OK? Le 3e point, ça va être aider à réfléchir à demain. Aider la personne à réfléchir ou à se projeter dans l'avenir. Pour certains, se projeter dans 3 ou 5 ans peut les aider à identifier le chemin à parcourir pour s'y rendre ou à rendre plus tangible leur développement. On veut éviter ici de mettre l'emphase sur un titre. Oui, j'aimerais ça devenir VP. On veut essayer d'éviter ça, mais plutôt les aider à réfléchir sur le type de responsabilité puis le type de leader qu'ils veulent devenir. Le quatrième point pour vous aider à articuler une bonne discussion de développement, c'est les aider à voir les opportunités au sein de l'organisation puis à lever leur main quand quelque chose les intéresse. Alors, j'ai fait des dizaines d'entrevues de départ dans ma carrière, puis il y a quelque chose qui me marquait à chaque fois. Quand je demandais d'évaluer le niveau de satisfaction face aux opportunités de développement ou de promotion, la réponse des gens était assez basse pour 80% des répondants. Puis quand je creusais pour mieux comprendre ce qui se passait, je réalisais deux choses. Les employés ont besoin d'aide pour percevoir le monde autour d'eux et les opportunités qui s'y trouvent. Les gens quittent leur emploi en espérant trouver ailleurs ce qu'ils n'avaient pas su voir dans notre organisation. C'est triste de perdre quelqu'un parce qu'il n'a pas perçu les opportunités chez nous quand on sait très bien qu'il y en a plein d'opportunités chez nous. Le deuxième point que je notais, c'est que les employés ont aussi besoin d'aide pour apprendre à lever leurs mains et à être plus clair dans l'expression de leurs besoins et de leurs aspirations. L'autre exemple classique dans les entrevues de départ, c'est l'employé qui a été super déçu de ne pas avoir été promu, puis qui a vu un ou une de ses collègues être promu à sa place. Alors ma question à ces candidats-là, est-ce que ton gestionnaire est au courant que tu désirais avoir ce poste-là? En as-tu discuté avec lui? Non, j'en ai pas discuté, mais il aurait dû savoir que ça m'intéressait, j'ai travaillé tellement fort pour avoir cette promotion-là. Alors, c'est dommage parce qu'il s'agit en général de très bons employés, performants, appréciés de leurs collègues, puis une mauvaise communication mène souvent à leur départ. Ce genre d'exemple-là est super courant, puis si les discussions de développement sont plus formelles et plus régulières, bien, ces employés-là seraient peut-être restés dans notre organisation ou dans nos organisations. Alors, dans le cadre du programme que j'avais développé pour le développement des employés, dont je pourrais vous entretenir une autre fois, j'offrais le livre « Love it, don't leave it », encore une fois, un livre de Beverly Cape et de Sharon Jordan Evans. L'objectif était de coacher les candidats de ce programme-là à se responsabiliser par rapport à leur développement, à être plus proactifs et à briser le pattern des gens qui quittent à cause de leur mauvaise perception. Parce que ce qui se passe, c'est que l'employé qui quitte pour des raisons de manque d'opportunité, il risque de démissionner de son prochain emploi pour les mêmes raisons, puis à se sentir globalement moins épanoui au travail sur le moyen et le long terme. Le cinquième point qui est important à aborder dans vos rencontres de développement, c'est l'accompagnement des impatients puis des go-getters. Alors, les membres de notre équipe sont tous différents, puis c'est vraiment important de pouvoir ajuster notre approche parce que notre manque de réactivité pourrait nous faire perdre certains joueurs de grande qualité. Alors, quand vous avez un ou une joueuse avec un profil qui mélange l'ambition, l'impatience, la détermination puis un désir insatiable d'apprendre, il faut que vous vous adaptiez aux besoins de cette personne-là. La mesure de leur niveau de satisfaction doit vraiment être faite sur une base régulière, moi je vous dirais aux 3 mois. Et quand ces personnes-là viennent vous voir pour dire « ouais, j'aimerais ça, avoir d'autres opportunités », vous n'avez pas 6 mois devant vous pour revenir puis ouvrir une discussion. Ce sont, quand ils lèvent leurs mains, il faut les écouter parce que vous allez les perdre. Et le meilleur outil pour mesurer la satisfaction globale et la roue de la satisfaction que j'avais partagé à l'épisode 7, l'épisode « Où en êtes-vous professionnellement ?». Alors, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 7 et d'aller télécharger la roue. J'ai ajusté, le téléchargement est beaucoup plus facile. Si jamais vous avez essayé de télécharger, ça avait été compliqué, le lien est direct maintenant. Vous cliquez et vous l'avez. Ça va être aussi dans les notes de cet épisode-ci. Dans l'épisode 7, je parle en détail de la roue qui est probablement l'outil le plus puissant que vous ayez à votre portée pour vos rencontres de développement. Alors, il y a 8 zones d'évaluation, le niveau de motivation, le feedback du gestionnaire, les opportunités de développement, salaire et bénéfices, la reconnaissance, l'utilisation de mes forces et le niveau de responsabilité. Alors, je vous invite vraiment à utiliser cet outil-là, c'est vraiment un magnifique outil. Le dernier point à aborder dans vos rencontres de développement est de ne pas penser que comme gestionnaire, vous devez avoir toutes les réponses. Votre rôle est plutôt d'aider vos employés à découvrir leurs forces, puis de mieux les utiliser, puis surtout de comment les utiliser plus souvent. Votre rôle est de les faire réfléchir à ce qui les rend heureux, puis de valider s'ils sont assis sur la bonne chaise et de comprendre ce qui les motive. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme je le dis souvent, avant d'aider les autres, on doit mettre notre propre masque à oxygène. Il faut donc que vous puissiez vous-même mettre en application les points sur lesquels vous allez coacher vos employés. Si vous voulez que vos employés soient plus responsables de leur développement puis de leur bonheur professionnel, vous devez d'abord être responsable de votre développement et de votre bonheur professionnel. Puis pour terminer, si vous manquez de temps, vous pouvez aussi mettre de côté tout ce qui vous semble compliqué dans ce que j'ai mentionné plus tôt et ne mettre l'emphase que sur deux questions hyper simples à poser lors de vos rencontres de développement. La première question, c'est « Qu'est-ce qui fait que tu restes avec nous? » Puis la deuxième question, c'est « Qu'est-ce qui ferait que tu déciderais de partir? » Ces deux questions-là qu'on utilise dans les « stay interviews » par opposition à des « exit interviews » peuvent à elles seules vous aider à être plus proactifs sur la rétention de vos meilleurs talents. Alors, il n'y a plus vraiment d'excuses pour éviter vos rencontres de développement avec vos employés. Puis sachez que chaque minute investie vous rapportera au centuple en termes d'engagement, de performance et de résultats. Alors, gardez ça simple, puis allez-y, une discussion à la fois. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, mais surtout qu'il vous aura aidé à réfléchir ou à vous donner le goût d'essayer quelque chose de nouveau dans votre approche ou d'analyser votre situation avec un nouvel angle, avec le « what if ». Et je vous invite à écouter le prochain épisode, la deuxième partie dédiée au défi de la gestion de la performance dans le contexte de la grande démission. Je vous promets de publier cette deuxième partie-là rapidement. Alors, merci d'avoir été là, puis je vous invite à me faire part de vos commentaires et n'oubliez pas d'aller télécharger la roue. Alors, merci, à bientôt.